Absolument, les amis, si votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct Washington DC, nous décollons aujourd'hui vendredi, nous quittons Washington. Oui, il fait très, 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 très calme à Washington aujourd'hui. Il a plu le matin, il a plu toute la journée. En tout cas, Washington, c'est le calme. Une journée moussade, mais nous décollons parce qu'on doit continuer notre voyage avec nos invités spéciaux, ouais, qui voyagent chaque jour en créature VT, Northern Universal. Avec nous, on décolle. Aujourd'hui, votre commandant de bord commence par vous souhaiter un très bon week-end en compagnie de VOA Afrique, comme vous le faites chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Merci infiniment de voyager avec nous dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos. Hein. Je vous promets que ça sera une très 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 belle émission. Une très belle émission parce que, vous savez quoi, faut respecter les mamans, faut respecter nos femmes, faut respecter nos sœurs. C'est leur journée internationale de la femme africaine. Ah oui, on en parle peu, hein, on doit quand même le dire, on en parle peu, mais son intuition première remonte pourtant il y a un peu plus de 50 ans. Vous vous rendez compte, le 31 juillet a été consacré comme journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes PAO en anglais qui s'était tenu à Dakar pour être plus précis, c'était au Sénégal le 31 juillet pour être plus précis 1974. La date historique de 1962 souvent retenue pour cette journée et le 31 juillet 1962, ce jour-là, à Dar es Salaam, en Tanzanie, des femmes de tout le continent, enfin, en tout cas africain, s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation de femmes, la conférence des femmes africaines, CEFA, comme ça qu'ils appelaient ça. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité, hein, de réaliser et conduire les changements sur le continent. Souvenons-nous que les peuples africains se libéraient alors peu à peu de la tutelle, hein, même des pays colonisateurs. Donc la libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid et l'instauration d'une justice commune qui défende les droits de l'homme en tant qu'être humain, devenaient alors les objets pionnières du mouvement. Du chemin a été parcouru, du chemin reste encore à parcourir. C'est pourquoi il faut vraiment encourager nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos grands-mamans. C'est une journée spéciale. Donc si vous avez une femme africaine à côté de vous, maintenant même là où je vous parle, si c'est maman, si c'est tantine, si c'est la sœur, je vous dis d'arrêter maintenant même, n'écoutez même plus RM Show, retournez-vous pour aller d'abord souhaiter à cette femme-là journée, une très 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 bonne journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet 2020. N'allez pas dormir sans trouver une femme, même si c'est une petite sœur, même si c'est pour votre fille, il faut aller la souhaiter. Bonne, très belle, bonne journée internationale de la femme africaine. Donc c'est une journée spéciale et moi j'en profite en tout cas pour aller souhaiter aussi toutes les femmes africaines qui sont en train de m'écapter partout dans le monde. Aujourd'hui, je vous souhaite une très 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 belle journée internationale de la femme africaine. Mais aussi dans cette émission Island Music, comme chaque vendredi, Island Music, on finit bien sûr notre week-end dans Island Music, mais aussi on conclut avec notre sujet de la semaine, c'était l'implication politique des religieux. Les religieux doivent-ils faire de la politique ? Parfois, on assiste à des prises de position des leaders religieux sur des options politiques des gouvernants. On l'a dit, les religieux alors doivent-ils prendre position et donner leur avis sur les droits politiques ? Doivent-ils rester en dehors du débat politique ? Que doivent-ils faire exactement? On en parle, on en finit avec un professeur de sciences politiques, hein, et il est en même temps prédicateur, en même temps il est professeur de Sciences Po à l'université James Madison ici aux États-Unis d'Amérique. C'est le docteur professeur Ivan Ilunga qui sera notre invité dans cette émission. Au courant de cette émission, nous allons poser toutes ces questions et nous saurons exactement c'est quoi la situation. Voilà les amis, on est ensemble, on décolle avec ma chanson préférée de Egyptian, Hoja, Hoja. Et nous revenons dans un instant pour la suite de nos programmes.
Look, my guys, me never know your grip, sir. Sights up, me love how you tick, sir. Whether slow wine or calypso. My sister rocks, sir, and she dips, sir. She said me wrist glow just like a disco. I mean, who them guys want squeeze like a pistol. Bang, bang, lick a shot, two bullets. Big tune, is tell a DJ to pull it. Stampede flukes, tell a waitress to pull it. Big money guy, let me watch how we do this. Do it. She looking tight, pretty. Bottles of Ciroc got me looking like Diddy. Marathon Mims, I could run any city. Let's kill a small talk, girl, really. What it's gonna take to get you back to the silly. I mean telly, but only if you're ready. Cause no, you gotta let my ring off me silly. So if you wanna roll, just ping me Blackberry. And I already told you, if you need a soldier, you know who to roll with. I just wanna hold you.
Tell me what you want, yo. Put me on sight around, yo. Tell you give me the tightest. Hold me and forget in my life. Tell me what you just squeeze, yo. Put me things all around, yo. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Me guy them jam, me no care. You take it anytime, anywhere. You got it scared, so you no fear. And as a woman, I will be there. People are gonna make a run for me. People are gonna make a kick you on me. You can feel it, and you feel it. Hold me, I'll be really squeezing. Y'all me want to be all, yo. Put me arms right around, yo. Y'all you give me tight and hold me as I can see in my life. Y'all me just want to squeeze, yo. Put me things all around, yo. Y'all you give me tight and hold me as I can see in my life.
Eviction. This one, yeah, it's had a mug gal edition. See them gal that contradiction. Them to them sitting tight, what a bare fiction. The one of them a be it. Body smoking, cigarette, shit night, cigarette. Get them to roll the blade, till them to ski it. Stay out on them, Jamaican tip. All I do is sound boots and be taking pics. What have the new bent, the color of a bacon bit. I got a spot in every state, Dalmatian. Now that's young money, old money, real good money. Ain't do a feature that wasn't on Billboard, honey. No Kingston, Remo, Waterhouse, Jungle, Bobby. Now I'm not yelling, I'm wrong.
Egyptian, bien sûr, c'est Egyptian et Nicki Minaj. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui adorent cette chanson comme moi. Waouh, ces deux-là, quand ils sont ensemble, c'est trop fort. Place à présent un autre segment anglais avec Michel Joseph, our English professor. Hello, Michelle. This is the weekend. What are you going to teach our student today, Michelle? How are you, anyway?
Bonjour, Roger. Hello, Roger. Bonjour, tout le monde. Hello, everyone. The word of the day, le mot du jour, wait. Ça s'appelle W-A-I-T. W-A-I-T. Wait. Wait a minute. Attendez une minute. Wait for me. Attendez-moi. I can't wait. For tomorrow. J'ai du mal à attendre demain. Can you wait a minute? Attends une minute, s'il te plaît. À ne pas confondre avec weight, W-E-I-G-H-T, le poids. We had a long wait at the hospital. On a dû attendre très longtemps à l'hôpital. I could not wait any longer. I went into the room. Je ne pouvais plus attendre. Je suis rentrée dans la pièce. What's the wait time? Quelle est la période d'attente? En expression familière, wait up! Attends-nous! Wait up! Back to you, Roger.
Back to us. Merci infiniment, Michel, Joseph, pour ce segment anglais qu'attendent souvent, très souvent, presque chaque nuit, je dois dire, ces amoureux de cette belle langue, ces étudiants d'anglais qui adorent l'émission de Michel Joseph. Mais comme je dis toujours, j'espère que vous êtes en train de noter et que le jour où je vais venir vous voir dans votre pays, là, je vais vous poser toutes ces questions-là, les mots et les expressions que Michel Joseph nous enseigne. Et voilà, on continue en musique et nous revenons pour parler à notre invité de ce soir.
Sur les choix politiques, doivent-ils rester en dehors du débat politique? Que doivent-ils faire? On en parle encore cette semaine et j'ai l'honneur et le privilège, hein, comme d'habitude, de recevoir mes invités dans cette émission. Et aujourd'hui, mon invité n'est personne d'autre que le professeur Ivan Yenda Ilunga, qui est docteur en sciences po, ou sciences politiques, comme on dit, et professeur aussi à l'université, docteur. Merci d'abord infiniment pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui, docteur. Comment vous allez, hein?
Merci beaucoup, monsieur Roger, et je vais très bien. Merci pour l'opportunité de passer dans votre émission.
En tout cas, pour nous, c'est un grand honneur parce que quand nous avons des questions d'actualité très importantes, c'est mieux que nous puissions avoir des gens comme vous pour nous en parler. Alors, parlons brièvement de vous, docteur Ilunga. Qui êtes-vous? Que faites-vous exactement? Je sais que j'ai parlé de vous brièvement, mais parlez-nous un peu de vous.
Oh, merci beaucoup. Vous savez, j'ai dit toujours, parler de soi, c'est deux fois difficile. J'essaie de tout faire un peu et sans plus voir, de poser des questions qui vont devoir m'aider à expandre peut-être sur mon profil. Docteur Ilunga, Ivan Yenda Ilunga, je suis professeur James Madison University à Virginia, où j'enseigne dans le département de sciences politiques, plus particulièrement les cours de politique de développement, interventions humanitaires, religion et société. Et le dernier cours est à cheval entre sciences politiques et le département de religion et philosophie. Là, c'est un peu en ce qui concerne le profil académique. Bien sûr, je suis congolais d'origine et j'ai mon doctorat au PhD en ce qu'on appelle Global Affairs, qui est une filière très, très close des relations internationales. un master dans le même domaine à soi aussi, je dis, et autres qualifications, master en développement social, licence en développement, en études de développement et une autre licence en relations internationales.
Clairement, vous êtes la personne qu'il nous faut aujourd'hui. Clairement, vous êtes la personne qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, docteur Yende Ilunga, vous avez bien suivi mon introduction à propos de notre sujet de cette semaine. C'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Et nous avons vu dans l'actualité, on a tous suivi tout ce qui se passe. On a vu au Mali, on a vu le parcours sans pareil de l'imam Mamadou Diko, figure de proue de la contestation malienne aujourd'hui. On a même suivi pendant que, alors que 5 présidents d'Afrique de l'Ouest sont à Bamako pour tenter de désamorcer cette crise politique qui perdure au Mali, par exemple. C'est ironique, mais un homme qui n'a jamais occupé de poste électif qui semble détenir les clés de dénouement. Ça, c'est ce qui se passe au Mali. Et c'est l'imam Diko, par exemple. On a vu, parlons brièvement aussi de ce qui se passe en RDC, par exemple, au Congo, où, par exemple, ce que le cardinal Ambongo a dit à propos de Ronsard Malonda de la CENI. Et plusieurs fois dans les passés, on a vu quand les catholiques, par exemple, en RDC marchaient les prêtres demandaient à leurs croyants, leurs fidèles, de marcher, de protester, ce genre de choses. Et on voit des pasteurs par-ci par-là, des églises protestantes en parler. Quand est-ce que tout cela a commencé? Parce qu'aujourd'hui, peut-être on voit ça parce que c'est dans l'actualité, mais les gens se posent la question, est-ce que tout ça a toujours existé depuis toujours?
C'est une très bonne question, et peut-être pour revenir à la question et ajouter une petite dimension sur mon profil. Oui. C'est ce que je ne veux pas peut-être trop extendre, mais
ça va donner un temps. On a tout notre temps.
Okay, donc, en dehors de mes responsabilités académiques et tout, je suis aussi prédicateur, donc cela
donnera peut-être
un autre élément dans la conversation.
Mais pardon, juste une question de curiosité. Quand est-ce que vous avez le temps de faire tout ça?
Voilà, la vie est faite vraiment de. On a tous 24 heures, mais c'est question de s'organiser, se donner une certaine discipline et avoir un programme bien établi. Mais je dis toujours, en dehors de tout ça, je donne aussi mon temps de sommeil. Je le respecte vraiment.
Très important, ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Alors.
Oui. Donc, par rapport à la question de quand est-ce que. Les enjeux politiques ont commencé à connecter avec les perspectives religieuses, et quand est-ce que les religieux ont commencé à s'intéresser à la politique. Donc moi, je dis que c'est une réalité qui a existé depuis la création du monde, et depuis l'évolution de fait, et surtout depuis l'idée de ce que nous appelons le construct of the state, dans la construction de l'État. Parce que l'État en soi, tel que nous le voyons aujourd'hui, nous connaissons ça, c'est un ensemble de communautés, un ensemble de valeurs et un ensemble des groupes, ou ce que je dirais des groupes d'influence qui se sont mis ensemble, qui ont partagé leurs valeurs et qui ont créé une structure de gouvernance. Et dans la logique de la création de l'État, il y a aussi cette logique des valeurs. Et beaucoup de sociétés, avant d'être politiques, avant d'être économiques, où il y a eu plus des éléments convergents, c'était plus la religion. Ou en d'autres termes, les autres parleront de la divinité, la recherche de la divinité ou la religion. Il a été depuis longtemps l'élément convergent de toutes les sociétés. Et les leaders qui sortaient de l'ensemble du masque pour diriger étaient d'abord premièrement approuvés par le leader religieux. Et ça, c'est dans le contexte de la société non étatique. Mais maintenant, avec la construction de la société comme nous connaissons aujourd'hui, ce que nous appelons nation state, ça veut dire qu'il y a maintenant plus de la régulation au niveau des structures étatiques, mais qui cependant sont soutenues toujours par les sociétés qui ont des valeurs et qui ont des forces idéologiques et qui informe la manière dont la société doit travailler. C'est ainsi que quand vous regardez du point de vue, par exemple, sociologique, vous comprendrez que l'État a commencé dans une petite structure qui est appelée famille, et puis qui a grandi communauté, et puis qui s'est élargi. Et mais dans cette progression-là, il y a toujours eu l'influence religieuse ou l'influence de certaines pensées de la divinité ou quoi. Et cependant, c'est ainsi que moi je dis toujours, par exemple, le débat qui dit que les religieux doivent, il doit y avoir séparation entre État et religion et tout ça, État et Église, ça c'est un faux débat. Je dis, ça doit être complémentaire. Et ça a existé depuis longtemps, oui.
Ça existait depuis longtemps. Et moi, je suis content que vous nous disiez ça, parce que ça, c'était une des questions que j'ai reçues, hein, où les gens posaient, mais quand est-ce que cela a commencé? Et il y avait un débat autour de ça aussi, où il y avait certains qui disaient, ça a commencé depuis le temps. Il y a certains qui ont parlé même de la Bible, à l'époque de la Bible, que cela existait. Et vous-même, qui êtes aussi prédicateur, vous le confirmez, que même à l'époque de la Bible, il y avait l'implication des religieux dans la politique, c'est ça?
Exactement, oui.
Voilà, alors, parlons de si ça a toujours existé, est-ce que cela, professeur, a toujours existé dans cette même logique, dans cette même forme dont on est en train de vivre aujourd'hui, où les gens ne savent plus, parce que j'ai vu un débat autour de ce sujet dans mes réseaux sociaux, où certains disent, oui Roger, on aimerait bien voir ces religieux s'impliquer, s'imprégner dans la politique, mais ils doivent être au milieu du village, pas comme ils sont en train de l'exercer aujourd'hui. Qu'en dites-vous, hein, professeur?
Vous savez, l'élément du milieu du village, je dis toujours, le village n'a pas de budget. le village a des forces qui informent son développement. Ça veut dire, ça peut être une majorité qui dirige, tout comme une minorité qui dirige. Et quand vous regardez la proportion, il n'y a toujours pas de milieu, mais il y a des forces d'influence. Mais maintenant, quand on dit à l'église où les religieux doivent être au milieu du village, il y a deux choses qu'il faudrait peut-être relever ici.
Oui.
C'est par rapport à la forme même, ou à la structure, à la composition de l'État. Il y a deux éléments. Premièrement, c'est la forme de l'État. Et deuxièmement, je vais m'expliquer, deuxièmement, c'est le fond. Dans le fonctionnement de l'État. En ce qui concerne la forme, nous voyons la subdivision des responsabilités. Et dans cette subdivision des responsabilités, il y a bien sûr le gouvernement, il y a autre structure. Et l'État ou les religieux sont considérés comme les acteurs non étatiques. Et par conséquent, ils fonctionnent au même niveau que les groupes de société civile et tout ça. C'est-à-dire, dans la forme de la composition de l'État ou de la machine de l'État, les religieux sont d'abord censés être en dehors de cette structure qui a normalement, comme on dit, les quatre leviers du pouvoir. Donc ça, c'est du point de vue de la forme. Mais leur participation dans la vie de l'État existe toujours, parce qu'on ne peut pas avoir l'État sans la société civile, sans les groupes de la société civile. Là, c'est un. Et de deux, maintenant, c'est ce qui concerne le fond. Le fond de l'État est basé sur des valeurs. Les lois étatiques sont des lois qui émanent d'un rassemblement des valeurs. Et ces valeurs-là viennent de la communauté, et très souvent dans nos États africains, ces valeurs sont inspirées par l'interprétation religieuse, l'interprétation des Écritures et l'interprétation, la considération de certaines idéologies religieuses. C'est, j'utilise bien le terme ici, idéologie, par rapport à la manière dont les forces religieuses les interprètent. Alors, ça c'est ce qui concerne le fond. Et vous verrez que beaucoup de leaders politiques, par exemple, sont au même moment dans la structure de l'État, mais ils sont aussi, par exemple, membres de telle église, membres de telle organisation religieuse. Alors, ce qui fait que leur prise de décision est informée par les valeurs qui leur sont accordées ou instillées dans leur groupe religieux. Là que je dis toujours, on ne peut pas parler de l'État comme un élément étranger en ce qui concerne la composition et l'existence des... on ne peut pas parler, vous voulez dire, du groupe religieux comme un élément étranger en ce qui concerne la composition et l'existence de l'État.
Cette chanson des Timmy qui que nous allons prendre un break ce soir à Balkan. Un morceau super cool que je dis à tous mes amis à Pointe-à-Pitre. Et bien sûr, j'en profite aussi pour saluer les amis qui sont en train de nous capter à Haïti. Chérie, oui, nous avons notre invité aujourd'hui, le professeur Ilunga de James Madison University, ici aux États-Unis d'Amérique, qui répond à toutes nos questions qu'on avait cette semaine à propos de l'implication des religieux dans la politique. Restez avec nous, la deuxième partie de RM Show continue dans un instant. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace, Africa. Aïe, aïe, aïe.
Avec bonne musique et tout standard. Roger Mundo, RM Show, sur la voie d'Amérique. À part,
Show, let's go, ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, bienvenue dans cet avion super fast, super sonique, super rapidos, super extra cool. J'adore tous ces mots-là quand je les ajoute. Mais écoutez, on est ensemble les amis, aujourd'hui c'est vendredi, un bon week-end si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, un bon week-end où vous vous trouvez. En tout cas, je vous souhaite the best of the best ce week-end, puis espérant que vous allez me souhaiter la même chose, hein, quand même. Ah oui, mais quand même. Mais écoutez, on finit avec notre sujet de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des conclusions avec le professeur Ilunga, professeur à James Madison University ici aux États-Unis, qui est professeur de Sciences Po. En même temps, il est prédicateur aussi. Donc, vraiment, c'est la meilleure personne pour nous parler de ce sujet. On redécolle en musique avant de revenir avec la suite de notre conversation avec le professeur Dr. Ilunga Yandi. On écoute Maître Gims et Maluma. On écoute señorita y la señorita.
Se rumore que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Francia, baby, qué elegancia, perfume Chanel Dio, baby, qué fragancia, está rica, delicious, you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotion, me mandas un emoji de eso que soy como el diablo, ¿por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este puesto yo no quiero ser el malo, no mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano, sigue ese movimiento, todo, 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 todo. Se rumore que su nombre es María, María, María. Él diría que me enamoraría.
Apparaître, disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, toutes mes filles, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui se mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. J'ai vu apparaître, très disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, toutes mes filles, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat.
María, 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 que diría que me enamoraría aquel día, aquel día.
professeur, je sens que quelque part, y a-t-il un conflit entre les valeurs coutumières africaines et la religion aujourd'hui? On dirait qu'il y a quelque chose, il y a aussi un conflit là pour arriver à la politique, en fait.
Un conflit qui divise la société, non? Mais c'est, je dirais, plus un conflit d'influence et de représentation. Comme nous le savons, la chrétienté a été d'origine importée, par exemple.
Exactement, c'est d'ailleurs pour ça que je posais cette question. Voilà.
Elle a été importée.
Ouais.
Mais dans le cas de la RDC, je veux un peu me focaliser là-dessus plus.
Ouais.
Dans le cas de la RDC, la chrétienté a été importée. Mais quand vous voyez le rôle, par exemple, que les missionnaires ont joué, ils ont fait de tout pour intégrer leur présence et philosophie religieuse dans la société afin de créer une certaine harmonie. Et vous verrez, par exemple, dans le temps, plus particulièrement les catholiques, ils ont créé des centres missionnaires, ils ont créé des écoles, des hôpitaux, même les lieux de sport. C'est-à-dire, il y a eu une structure d'intégration et de création d'une nouvelle culture qui n'est pas une culture étrangère, mais qui est comme ce qu'on appelle une culture hybride.
Oui.
Qui se forme, qui ne tue pas ce qui est traditionnel, mais qui n'a pas non plus des puretés dans ce qui est extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une formation d'une culture nouvelle qui a été créée. Mais comme je dis, le grand conflit, c'est au niveau de la représentation politique. C'est là qu'il y a un peu de tension entre les valeurs, les leaders qui prônent les valeurs traditionnels et leaders qui ont embrassé les autres influences religieuses. Et j'ai commencé...
Non, je vous laisse finir. Vous avez commencé?
Je vais commencer par dire, quand vous voyez la démocratie et la représentation religieuse en RDC, il y a une grande majorité, si je ne m'abuse, ça doit être autour de 85%, voire même plus, des Congolais qui ont d'affiliation chrétienne. Et ça donne un poids numérique, un poids de représentation. Et par conséquent, les autres groupes qui peuvent être minoritaires dans leur organisation n'auront pas normalement aussi d'influence comme les autres. Et c'est là que ça peut créer un peu des petites tensions de représentation. Mais je ne vois pas une tension de cohabitation en termes de valeurs.
Qu'est-ce qui ne va pas dans la situation en RDC avec les religieux et la politique?
Je ne sais pas très bien ce qui se prépare dans les offices des groupes religieux pour au niveau du pays. mais à faire une lecture de la chose, ce que nous voyons en RDC n'est pas unique à la RDC. C'est, en fait, au-delà de réalité que je vais toucher bientôt, ce sont juste ce conflit idéologique qui se limite, en fait, sur la question que nous débattons ici. Est-ce que les religieux doivent prendre part à la vie politique?
Voilà.
Et cela a comme source cette interprétation des normes qui dit qu'il doit y avoir séparation entre l'État et la religion. Ce qui est, comme je dis auparavant, n'est pas aussi une théorie bien fondée. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en RDC? En RDC, si nous faisons la lecture d'après 2018, nous semblons, avec les élections qu'il y a eu là-bas, nous semblons voir qu'il y a une influence, il y a ceux qui diront une influence négative des religieux. Nous devons être aussi clairs ici, nous parlons plus de la Cinco. Et des autres conflits internes entre les groupes religieux, plus particulièrement ce qui concerne la CENI. Ça, c'est sans l'heure, je pense, c'est une question aussi de positionnement et d'influence. Parce qu'à suivre, je crois, Béchoré, à moins que je m'abuse, non, et quand il parlait sur ce qui s'était passé sur la prise de décision, ouais, avec la CENI, il a dit, mais écoutez, les autres groupes sont minoritaires et nous, nous sommes majoritaires. C'est là que je dis, ces questions aussi de représentation que nous devons bien analyser. Mais nous ne devons pas non plus nous jeter, jeter les pierres sur les groupes religieux, parce que si nous regardons très bien, depuis la nuit des temps, depuis le Zaïr, plus particulièrement la fin du règne du président Joseph Kabila, ceux qui ont été au fond et qui pouvaient aussi s'asseoir à la table des négociations, c'était des religieux. Et ça veut dire que les religieux ont une certaine crédibilité sociale et politique, et voire même une crédibilité diplomatique. J'ai entendu quelqu'un dire, mais comment les monseigneurs, les abbés sont en train de recevoir les diplomates. C'est-à-dire la crédibilité qu'ils ont n'est pas seulement une crédibilité sociale, mais une crédibilité aussi diplomatique. Et leur influence ou leur voix sur la chose publique doit être considérée. Comme je dis, ce sont des acteurs non étatiques.
Comment caractérisez-vous, comment vous voyez cette relation en des mots simples que nous, qui ne sommes pas professeurs à l'université, pourrons comprendre. Comment vous voyez cette relation-là entre les religieux et les politiciens dans la politique? Comment vous, personnellement, vous voyez cette relation-là, professeur?
Je crois que c'est une relation qui doit être renforcée. Doit être renforcé, et je dirais même qu'il y a urgence de voir cette relation établie, renforcée, et de voir des religieux entrer dans la chose publique et collaborer avec les politiciens. Je vais me baser sur deux faits. Le premier, c'est par rapport à l'article, à la constitution de la RDC, toujours, à son article 37. Chapitre 2 de la Constitution sur les droits économiques, sociaux et culturels, et son article 37. Je vais lire. L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et l'éducation des citoyennes et des citoyens. L'article 7. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La dernière phase, la loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. Déjà, par rapport à la conception de la Constitution, il y a un framework de collaboration entre le politique et les religieux. Nous savons tous que les religieux au Congo, par exemple, ont des écoles, ils ont des centres de formation, ils contribuent au développement de l'éducation, au développement moral et social, voire même économique à un certain niveau. C'est-à-dire que l'État peut collaborer avec. Ça, c'est lorsque nous voyons les politiques comme institutions. Et maintenant, la relation avec les politiciens, comme j'ai dit auparavant, M. Roger, les politiciens sont membres des communautés. Et très souvent, nous avons tendance à les isoler de la communauté générale, qui est de ce que les termes politiques sont dans la base. Donc, eux sont assis dans leur bureau, thématisé et tout, dans la capitale, et ceux de la base, comme on dit, la grande communauté, n'est pas représentée. Ouais. Mais non, ces gens ont. D'abord, ils viennent de ces cités, ils viennent de ces villes, ils viennent de ces provinces. Ils sont membres premièrement de ces communautés, de ces églises, de ces groupes religieux, avant d'être politiciens. Parce que normalement, dans des pays qui se respectent, même le Congo est en train d'aller dans ce domaine-là. Donc le terme de leur mandature peut être de 5 ans, 4 ans, quoi, et puis après, quoi, elles deviennent un citoyen normal. Ça veut dire, quand je redeviens citoyen normal, ils doivent passer encore leur temps dans la société. Voilà, je vois qu'il y a urgence de recréer cette collaboration entre les religieux ou les groupes religieux et les politiciens. Deuxième élément très important, maintenant ça couvre dans toute l'Afrique.
Oui, parce que j'allais en venir aussi hein, en parlant de. Parce que là on a parlé de. J'en ai ramené. Ce qui couvre un peu l'Afrique, ouais, vas-y.
Ce qui couvre un peu l'Afrique. Vous avez relevé le cas du Mali.
Oui.
Je veux ajouter, il y a aussi le cas de la République centrafricaine.
Centrafricaine, voilà, exactement. Là c'est encore une. Ça c'est un très bel exemple, par exemple, en parler. On a vu toutes les religions confondues mêlées dans la politique et ça
n'est pas.
Ben ouais.
Parce que les grands conflits que nous allons connaître, que nous connaissons déjà, qui ont commencé, bien sûr, avant on a parlé du terrorisme avec ISIS et consorts, mais les grands conflits sociétaux qui sont en train de monter, ce sont d'abord les conflits religieux, ou les conflits religieux, c'est-à-dire des conflits d'interprétation idéologique des Écritures. Et quand vous voyez au Mali, d'une part, il y a toute cette l'institution État, et de l'autre côté, vous voyez l'imam. Et les conversations qui se passent, c'est-à-dire l'imam qui représente une communauté musulmane, qui est vu comme acteur politique et au même moment acteur religieux. Et il ne peut pas, par exemple, signer un accord de paix qui ira à l'encontre des valeurs qu'il tire du Coran ou de l'interprétation du Coran selon son obédience. Et ça, ce sont des tensions qui commencent à exister. Et j'ai lu, je me réserve de dire si c'est vrai ou faux, mais j'ai lu quelqu'un dire non, en fait, le monsieur est en train de radicaliser la population, afin de faire du pays un État extrêmement islamique et tout comme ça. Ça, ce sont d'autres éléments qui peuvent être débattables. Mais la seule chose que je vois en ça, c'est la tension de la religion qui commence à influencer la manière dont la politique travaille. En Centrafrique, les Seleka et je crois Antibalaka, qui étaient les groupes armés les plus influents. Quand vous regardez leur composition, c'était les groupes majoritairement chrétiens et de l'autre côté, les groupes majoritairement musulmans. Et le conflit, quoique étant interprété comme conflit politique, avait des sous-bassements religieux. Et en République démocratique du Congo, maintenant, quand vous voyez les conflits qui se passent dans l'Est, plus particulièrement la recomposition des groupes comme ADF et tout ça, ce sont des groupes qui ont émergé avec des interprétations des Écritures selon leur obédience religieuse. Et ça continue à former, leur action et leur vision même de la gouvernance. C'est là que je dis qu'il est important que l'on comprenne que la religion est là, elle reste là. Il y a un auteur, si j'ignore le nom, je peux chercher ça, qui a dit ceci. Pendant les conflits, l'État peut partir, mais la religion reste avant, pendant et après le conflit. C'est-à-dire, là, la permanence de la religion dans le cycle de l'État est important et nous devons le comprendre. Et comme je dis, les grands conflits maintenant sont en train de devenir, si pas totalement religieux, mais du moins avec une certaine influence religieuse.
Mais est-ce que c'est cela aussi, professeur, qui fait à ce que les religieux se sentent un peu, comme on dit en anglais, untouchable hein, parce que, comme vous venez de le dire, cette citation qui dit « la religion a existé, va exister et sera toujours », les politiciens, par exemple, vont passer. Est-ce que c'est ce qui fait à ce que aussi que les religieux, en général, se sentent permis de tout faire, par exemple?
Peut-être oui, mais je dirais aussi cette grande tension, c'est parce que pendant longtemps, on a pensé faire la politique sans les religieux. On a pensé adresser les problèmes d'insécurité sans les religieux. Et maintenant, c'est comme un élément déterminant qui entre dans l'équation qui était déjà créée. Et ça complique un peu parce que ceux qui s'adressent ou qui gouvernent n'étaient pas préparés à avoir de telles influences. Et là, je pense qu'il est important d'inclure cette conversation des religions à l'intérieur. Bien sûr, il y a des leaders religieux, nous devons le dire, qui sont opportunistes. Pour eux, ce n'est pas seulement la religion qui compte, mais si nous asseyons à la table des décisions, avant ou après la réunion, il y aura un 5 000 dollars qui sortira comme argent d'unité ou argent de transport, je ne sais pas qui fait le transport 5 000 dollars. Donc, il y a un peu.
On a vu ces images là, c'est vrai, on a vu ces images là. Vous voyez que ça ne donne pas une belle image à ces religieux là en général et même à vos fidèles.
Moi je crois que oui, mais il est toujours dangereux de généraliser. Vous voyez, quand on a vu un petit nombre de gens par exemple faire de telles choses et directement on dit non, les religieux sont en train de faire, et par conséquent on met ça sur l'ensemble des groupes religieux, ça c'est pas, je pense c'est pas. Mais bien sûr, il y a des questions, comme je dis, qui sont par exemple opportunistes. Je trouve mal une constitution africaine qui interdit à un leader religieux de faire la musique. Donc, il n'y a pas. Je ne l'ai jamais trouvé. Et d'ailleurs, en Afrique du Sud, par exemple, après l'apartheid, avec Desmond Tutu, pendant cette structure de Truth Reconciliation Commission, c'était des religieux qui avaient pris le bâton et qui ont donné un sens de cohésion et de réconciliation à l'État. Et c'est là que moi je me dis toujours, bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a des gens qui peuvent se contenter d'être opportunistes et tout ça, mais il y a aussi ceux qui entrent dans des mouvements de leadership religieux, pas parce qu'ils sont appelés. Du parce que bon, ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs, ils sont devenus des bons parleurs et par conséquent, bon, ils ont ce qu'ils ont, mais on les reconnaît toujours par leurs œuvres, comme moi je crois la Bible le dit. Mais ce qui est important ici, je pense, c'est quand nous voyons la place de la religion ou des leaders religieux dans la construction de l'État et de l'évolution de la société, cette place-là est déterminante.
Donc vous nous dites qu'il n'existe pas au milieu du village, je pense. Je pense qu'on doit lever ça. C'est le milieu du village, là, quand on dit le milieu du village. Ça existe ou ça n'existe pas?
Le danger dans l'académie, c'est toujours l'idée de définir le concept. Alors, je dirais, peut-être pour ceux qui disent que l'église doit être au milieu du village ou le groupe, les religieux, pour la dire, doivent être au milieu du village, peut-être nous avons une certaine interprétation de qu'est-ce que signifie le milieu. Je ne veux pas citer le nom, mais il y avait un ministre de la communication de la RDC à l'époque qui disait toujours, lorsque les groupes religieux se mobilisaient, il disait, mais ces gens-là ont perdu la tête. Ils doivent rester au milieu du village. Ils doivent être comme des arbitres. Mais écoutez, comment voulez-vous que je demeure, soit disant si le milieu existe, comment voulez-vous que je demeure au milieu du village? Un arbitre qui est quelque part, voyons un peu l'image de foot, et l'équipe A est en train de mal gérer la chose, de jouer en dehors des normes. Et l'équipe B en partie, et moi, arbitre, je dis non, parce que je dois rester au milieu du village, je ne désinterviens pas, ça n'a pas de sens. C'est là que je dis que le milieu n'existe pas. C'est question de force et question d'agenda. Si ceux qui gouvernent n'ont pas, par exemple, ne font pas une moralité, une honnêteté intellectuelle et d'hommes d'État, n'agissent pas conformément à la loi, n'agissent pas conformément au bien-être de la population. Je ne vois pas pourquoi on va interdire ou bien on va condamner les religieux qui se composent avec ceux qui sont affligés afin de demander que réparation soit faite. Sans oublier que les religieux dont nous parlons aussi sont d'abord citoyens de ce pays-là. Ça veut dire, si le taux de dollar montait, donc ces religieux-là en pâtissent.
Si la famille frappée ou l'économie ne marche pas, des religieux qui sont citoyens avec des familles en pâtissent aussi. Ça veut dire qu'il y a cette portion de la citoyenneté et de la moralité qui les ramène à vouloir chercher l'ailleurs. Alors c'est là que je dis le milieu du village n'existe pas. En politique, il y a des intérêts, comme vous le savez, et ces intérêts poussent soit un groupe à gauche, soit à droite. Être milieu lorsque vous avez un rapport de force équilibré. Mais dans ce cas ici, ceux qui ont la machine de l'État ont les rapports de force plus élevés. Et par conséquent, les autres doivent rebalancer. Et en rebalançant, il n'y a pas question d'équilibre, il n'y a pas question du milieu du village, il y a question de changement et de développement que la population désire.
Merci infiniment, professeur Yandy Ilunga. Je rappelle que vous êtes professeur de Sciences Po à James Madison University, ici aux États-Unis d'Amérique. C'était un réel plaisir de partager avec vous et surtout d'apprendre de vous. Place à présent à notre segment en sport avec Georges Ménard. Salut Georges.
Salut Roger, bonsoir à tous. Comme annoncé dans nos précédents segments, la NBA a bel et bien repris hier soir à Orlando. Dans le premier match, Utah Jazz a battu New Orleans Pelicans 106 à 104. La différence n'était pas beaucoup. Dans le second match, les amoureux du basket ont regardé à la télévision le derby californien remporté par les Lakers face aux Clippers 103 à 101. Plus qu'un match projet, les fans ont plutôt vu une démonstration de force entre LeBron James des Lakers et Kawhi Leonard des Clippers. Dans ce match âprement disputé et entrecoupé de rebonds, mais aussi d'assistance, les deux géants ont mouillé les maillots. Au finish, LeBron James a confirmé son gabarit de grand basketteur, pétri de plusieurs années d'expérience. Kawhi Leonard a plusieurs fois procédé à des attaques et passes décisives. Disons franchement que le match était très serré avant que les Lakers ne confirment leur supériorité. Ce soir, un autre duel à suivre entre les deux franchises texanes, Houston et Dallas. Un clin d'œil à tous nos auditeurs qui nous écoutent du côté du Kaolack au Sénégal, sans oublier nos amis de Libreville au Gabon. Bon week-end à vous.
Un bon week-end à vous aussi, Georges Léonard Sagnon. Et nous, on rentre à Washington à atterrir avec Rudy Rude Boy en caché. Washington DC, merci beaucoup d'être resté à l'écoute de RM Show au long de toute cette semaine. Ici votre commandant de bord, Roger Montou, en direct de Washington DC. Vous dis merci, merci infiniment et vous souhaite un très bon week-end en compagnie de VO Afrique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet, un nouveau sujet de la semaine et bien sûr avec beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup d'invités. Je vous dis God bless, Peace Africa.
Ma ou jaloux, il fout, il ca bang bang, et son si va la gâchée, ou pas même le monde.
C'était RM Show, une émission de VOA.